La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale. Une émission de Radio Campus Angers, réalisée depuis nos maisons.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 18h et vous êtes actuellement branchés sur Radio Campus Angers. Pas besoin de masque ou de distance de sécurité avec votre radio préférée. Vous embarquez à bord de la Covidienne, notre quasi quotidienne d'actualité confinée. Au programme de l'émission de ce soir, Alexis a souhaité prendre des nouvelles sur la situation actuelle vécue du côté de Singapour en échangeant à nouveau avec Kevin. L'occasion de découvrir la façon dont tout ça évolue chez eux et les différences qu'il peut y avoir avec notre pays. En deuxième partie d'émission, Iris sera de retour avec une nouvelle chronique. Elle nous donnera notamment quelques bonnes adresses où acheter de la musique et des livres sur Angers en pleine période de confinement. Ne bougez surtout pas, on commence dans quelques instants sur Radio Campus Angers. Vous aviez peut-être déjà découvert au lancement de la Covidienne l'interview de Kevin qui habite du côté de Singapour. Pour commencer cette émission, Alexis a décidé de prendre des nouvelles afin de découvrir comment il gère la crise sanitaire maintenant que nous avons un peu plus d'informations sur la situation. Sont-ils eux aussi confinés ? Ont-ils des mesures particulières qui ont été mises en place pour lutter contre la propagation du virus ? Je vous laisse découvrir ça et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers.
Bonjour Kevin, donc tu vis et travailles à Singapour depuis plus de 2 ans maintenant. Nous avons eu l'occasion de t'interviewer il y a 2 semaines sur la situation à Singapour. Comment a-t-elle évolué aujourd'hui ?
Depuis ces 2 dernières semaines, le nombre de cas était plutôt stagnant. Singapour avait fermé ses frontières et en fait il rapatriait au fur et à mesure les habitants, les citoyens singapouriens du monde entier, il les ramenait à Singapour. De ce fait, il y avait des cas, mais c'était surtout beaucoup de cas importés par ces citoyens-là qui revenaient dans l'État. Et depuis, on va dire, depuis ces 2 semaines, il s'est aussi passé un autre phénomène, c'est qu'il y a eu des cas importés. Il y a eu aussi des transmissions de cas en interne dans l'État singapourien, notamment chez les constructeurs, ils appellent ça à Singapour les work permit, les workers. Dans tout ce qui est, on va dire, les métiers du BTP, de l'entretien de la voirie, c'est beaucoup d'Indiens qui viennent à Singapour pour faire ce genre de métier. Il y a eu une explosion de ce nombre de cas à Singapour, et là, en ce moment, aux dernières nouvelles, on était autour de 600 cas par jour, 900 cas par jour. Au pire de ce qui s'est passé en France, on était, nous, à 30, 60, 100 cas maximum. Donc depuis, ça a vraiment explosé à cause, on va dire, de la mauvaise gestion de ce type de cluster, comme ils disent à Singapour, de centre de transmission. Parce qu'en fait, au niveau des workers à Singapour, il y a eu des gros cas de transmission. Parce qu'en général, c'est les Indiens, Bangladeshis, des Philippinos qui viennent à Singapour pour se faire un salaire et envoyer l'argent à leur famille sur une durée limitée. En général, ils sont nourris, logés par ces sociétés et dorment dans des dormitories, donc qui sont des dortoirs en français. Et donc, en fait, il y a eu quelques cas au début et ça s'est transmis tout de suite. Et là, sur les 6, je crois qu'hier, il y a eu 900 cas et c'est genre 800 cas, c'est des workers, parce que la transmission, elle se fait super rapidement. Là, du coup, à Singapour, depuis une semaine maintenant, on n'est pas sous confinement. Ils n'utilisent pas le mot confinement, mais on est dans la même situation. Dans le sens où on a le droit de se balader, de faire du sport, on a le droit de sortir quand on veut, mais il faut quand même des raisons pour sortir. Mais on n'a pas de papier d'attestation, c'est un peu au bon vouloir des gens. Pas vraiment. Il y a des ambassadeurs, ils appellent ça, c'est pas des policiers, c'est des ambassadeurs, des civils qui se portent volontaires pour donner les bonnes consignes dans la rue aux gens qui ne respectent pas les consignes. Et ensuite, il y a des amendes et tout ça si on ne respecte pas. Mais oui, quand on sort dehors, il faut obligatoirement un masque. Les règles se sont clairement durcies depuis 2 semaines et ça pourrait encore se durcir avec les cas qu'on a en ce moment. Du coup, les règles se sont beaucoup durcies depuis le 7 avril. Ils appellent ça « circuit breaker », c'est genre « on va court-circuiter le virus ». Donc, c'est des mesures pour stopper la transmission du virus. Donc, au début, c'était de fermer les restaurants, de fermer les bars, de fermer les clubs, tout ça, pour éviter les contacts. Et maintenant, c'est vraiment masque obligatoire quand on sort dehors. Il y a des raisons spécifiques pour aller dehors. Donc, là, c'est vraiment... on est à un confinement, mais le gouvernement n'ose pas dire le mot. Mais c'est assez dur. Il faut faire partie des essential business, donc des sociétés critiques pour la ville, pour pouvoir avoir le droit de continuer à se déplacer. J'ai une attestation que je dois montrer si je travaille dehors, parce que j'ai l'autorisation de travailler dehors. Si je travaille dehors, à l'aéroport ou à une station de train, je dois montrer ce papier pour justifier que j'ai le droit de sortir quand même et que j'ai le droit de travailler. Mais si je le montre, par exemple, quand je suis en train de faire du shopping, là, je peux avoir une amende. Donc voilà le statut depuis ces deux dernières semaines, depuis cette dernière interview.
Dans quel état se trouve le système hospitalier ? Est-ce des services privés ou publics ?
Alors à Singapour, c'est un mix. Il y a des hôpitaux publics, des hôpitaux privés. Donc il faut savoir que c'est même les hôpitaux publics, hein, c'est pas comme en France, c'est quand même payant. Tu dois payer si tu te fais opérer, tu dois payer la note, et puis, ou alors négocier avec ton assurance pour qu'ils payent pour toi. Mais c'est pas aussi naturel qu'en France, on va dire, parce que c'est un système un peu en mode comme aux US, donc où il n'y a pas de sécurité sociale. C'est à chacun de payer son assurance, de se prendre en main de ce côté-là, quoi. Donc il y a des hôpitaux publics, il y a des hôpitaux privés. C'est la même chose, la seule différence, c'est que les publics sont moins chers que les privés, mais ça reste quand même très cher. Une appendicite, pour donner un avis, une appendicite dans un hôpital privé, ça sera à peu près 10 000 dollars, ce qui fait à peu près 7 000 euros. Dans un hôpital public, je pense, c'est à peu près 5 000 dollars, quelque chose comme ça. Donc la situation, bah, c'est que là, il y a certains hôpitaux qui sont réservés pour traiter les patients du coronavirus. Le système hospitalier est loin d'être surchargé pour le moment, d'après ce que je lis dans les journaux. 3 décès depuis le début du coronavirus, donc ce qui est relativement peu. Là, on doit être à 6 000 cas en ce moment. C'est plutôt bien géré. Je pense pas que les hôpitaux soient surchargés pour le moment. Et ouais, il y a un tri, il y a différents hôpitaux qui sont réservés pour ça. Je sais que j'ai reçu des mails d'hôpitaux qui disaient « Nous, venez le matin pour des trucs qui sont pas du coronavirus et l'après-midi est réservé entièrement aux gens qui ont les symptômes du coronavirus. » Donc il y a des priorités, faut éviter, ouais, le gouvernement a dit d'éviter de se faire soigner pour quoi que ce soit, pour laisser le maximum de place pour les gens qui en ont réellement besoin avec le coronavirus.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'application pour smartphone mise en place par l'État ?
Ils ont développé une application que tu peux installer sur ton téléphone, où tu dois donner le droit sur le Bluetooth à ton téléphone, et le Bluetooth doit être activé tout le temps. Et en fait, le but de cette application, c'est que du coup, ça scanne toujours les appareils Bluetooth autour de toi. Et tous les gens qui ont l'application, imaginons, alors c'était avant cette période de circuit breaker, j'allais au bar, j'avais mon téléphone sur moi, je discutais avec un ami que je retrouvais dans un bar qui lui aussi avait l'application. Par exemple, moi, je tombe malade une semaine plus tard. Bon, en fait, ils peuvent récupérer les données de l'application et dire, OK, il a été en contact avec ce téléphone, ce téléphone, ce téléphone, ce téléphone, et pouvoir en fait tracer tous les gens que j'ai rencontrés pendant les semaines où j'ai eu le virus, donc souvent entre une semaine et deux semaines avant qu'on ait les symptômes, tout ça, tout ça. Et donc pouvoir savoir faire du contact tracing, c'est ce qu'ils essaient de faire depuis le début, ça a très bien marché. C'est ce qui marche aussi en Corée, pas mal. Ils ont essayé de faire ça depuis le début, donc en fait le gouvernement a développé cette application en plus. C'est installé sur le bon vouloir des gens, c'est pas obligatoire. Et j'ai entendu qu'ils avaient rendu le code source open source, pour que les autres gouvernements puissent récupérer le code source, l'améliorer et en profiter aussi. Ce qui est une bonne pratique. Bon, après, il y aura toujours cet aspect le téléphone scanne tout le temps les devices Bluetooth. Hein, donc il y a pas mal de gens qui en ont parlé. Ça choque moins qu'en France, je pense, ce genre d'application ici. En France, ça ferait un peu débat. Ça a fait débat, je crois, avec une application du gouvernement. Ici, c'est plutôt bien passé. Et en général, ils étaient plutôt assez fiers, en mode « le gouvernement, il a fait des choses bien ». Ça va nous aider à avancer. Donc là-dessus, voilà le statut sur cette application. Ouais.
Comment les Singapouriens perçoivent-ils ces mesures ?
Alors, d'après ce que j'ai vu, donc, on va dire que les sources, c'est quelques collègues à moi qui sont Singapouriens, principalement indiens et quelques chinois. Et ce que je lis sur Facebook dans les commentaires d'articles, quand il y a un article qui est posté, sur le Straits Times, qui est le journal, le principal journal de l'île, ils ont l'air plutôt contents de ce que fait le gouvernement. Je pense qu'en ce moment, ils sont assez critiques envers les dormitories et les workers, parce que ça coûte très cher à Lille quand même. Il y a eu pas mal de critiques aussi à un moment au niveau des transports en commun. Voilà, il y avait beaucoup de choses faites sur le social distancing, donc de garder un mètre avec les personnes avec qui on parle et on se déplace et tout ça. Le fait est que dans les transports en commun, rien n'avait été fait pour avoir ces 1 mètre de distance. Donc là, les gens avaient un petit peu râlé. Maintenant, ils l'ont mis en place. Il y a des marquages dans les trains pour se placer aux bons endroits, pour être à la bonne distance. Globalement, les gens sont assez contents et toujours assez fiers de leur pays. Ils essayent pas mal de promouvoir ça à Singapour. Je pense la plupart des pays, mais à Singapour, je trouve que ça se ressent. Ils essayent de... Même les gens, ils sont assez proud, comme ils disent, d'être Singaporean. Pour la gestion de la crise, ils sont assez contents. Au début du Covid, Singapour était très très bon et avait été cité comme exemple. J'avais lu quelques médias français ces derniers temps qui critiquaient un petit peu du fait que voilà, il y a eu beaucoup plus de cas et de transmission avec tous les cas importés et tout ça. Singapour s'est un peu fait surprendre. Les gens ont été un peu critiques là-dessus, mais globalement, le retour, je pense, est assez bon et les gens sont assez contents de. Même là, du circuit breaker jusqu'à début mai, ils ont mis un mois tout de suite, pas une semaine, puis une semaine, puis une semaine. Là, c'est clairement un mois. Et puis, je pense que ça va aider et les gens là-dessus sont assez contents.
Il y a une grande communauté chinoise à Singapour. N'y a-t-il pas eu de méfiance à leur égard, voire de racisme avec l'épidémie ?
Alors, j'ai lu pas mal de trucs là-dessus. Ouais. Ça s'est arrivé aux pays occidentaux. Ouais. J'ai même vu des Singapouriens qui ont été choqués parce qu'il y avait des Singapouriens à Londres qui se sont fait tabasser, je crois, ou qui ont eu des tags sur leur maison en mode dégagez, vous avez le Covid ou quoi. Et c'était des Singapouriens, c'était pas des Chinois. Et les Singapouriens ont été assez choqués là-dessus. Et j'ai lu un article aujourd'hui aussi, c'est un Malaisien et qui s'est fait tabasser par des Australiens qui ont dit hey, cassez-vous avec votre Covid, t'as rien à faire ici. Pour revenir à la question, à Singapour, j'ai pas ressenti ce racisme. Racisme, je dirais pas racisme. Non. Je dirais une certaine méfiance, mais c'était une méfiance envers tout le monde. Tout le monde essayait de faire attention à ne pas être trop proche des gens, à porter un masque. Porter un masque est assez naturel en Asie. Les gens, quand ils sont malades, déjà, ils portent un masque. Donc là-dessus, c'était moins gênant. C'est plutôt des lieux. Parce que du coup, avec le contact tracing, les Singapour, quand ils publient chaque soir vers 21h, ils publient la liste des nouveaux cas de la journée. Et en général, ils listent les nouveaux clusters, les nouveaux lieux où il y a eu beaucoup de transmissions. Et ces gens-là essayaient d'éviter ces lieux-là. Il y a des lieux qui sont plus typés que d'autres. Il y avait un dîner dans un restaurant chinois, donc là c'était beaucoup de chinois, mais les gens ils disaient « Ah, il faut éviter ce restaurant, c'est pas bon, faut pas y aller ». Mais ils étaient pas en mode « Ah, c'est des chinois, faut pas aller dans les restaurants chinois ». Ils généralisaient pas trop. Là, avec les workers, je sais pas si les gens font plus attention aux workers, mais de toute façon ils ont plus le droit de se balader dans la rue, donc on croise plus beaucoup de monde en ce moment, donc c'est difficile à dire. Après, moi je sais que j'ai eu un cas assez drôle. C'était il y a deux ou trois semaines, on va dire. Singapour, la situation était très bien gérée. On avait genre 30-40 cas et ça commence à exploser en Europe. Beaucoup de cas étaient importés d'étrangers à Singapour. Donc les Singapour ont eu un peu peur des étrangers et des expats, on va dire, puisqu'ils mélangent un peu. Ils ne peuvent pas savoir si on est expat ou touriste. Et ils savent que les expats aiment bien aller dans les bars, aller sortir, aller boire un verre, voir des amis. Et ça m'est arrivé une fois. Un week-end, on prenait un taxi pour aller faire de la voile à Singapour. Et le taxi, il nous a vu arriver, on était quatre Français. On est rentrés à quatre dans son taxi. D'habitude, les Singapouriens, c'est simple, hein. Ils ferment les vitres, ils mettent la clim à 16 degrés et étaient protégés du soleil, tout ça. Là, il a éteint la clim, il a ouvert toutes les vitres, il a mis du pchit à l'avant. Il a dit « Ouais, j'ouvre les vitres, ça vous dérange pas ?» On a fait « On peut pas fermer les vitres, ça serait plus agréable, c'est pas très agréable là. » Il a dit non, on va laisser les vitres ouvertes, c'est plus sain. Je pense qu'il a eu un peu peur. Je pense que c'est plus des cas comme ça, mais bon, ça se comprend et c'est pas du racisme. J'ai pas ressenti de racisme ou de. Même au sein de mon entreprise, hein, c'est des Chinois avec des Indiens. J'ai pas vu de remarques un petit peu désobligeantes ou quoi que ce soit, donc j'ai pas senti ce racisme. Un peu de la méfiance, mais c'était pas méchant à mon sens.
Singapour est un port central de l'Asie du Sud-Est. Penses-tu que cela va avoir un impact significatif sur l'économie de la ville ?
C'est certain. Il est clair que la plupart des services sont arrêtés, donc clairement ça va faire mal à l'économie. J'ai lu que Singapour allait injecter pas mal de milliards dans l'économie pour en gros couvrir les dettes et couvrir les baisses de chiffres des sociétés et tout ça. Ça fait mal à l'île. Dans la vie de tous les jours, je le ressens pas trop. La vie suit son cours pour le moment. J'ai pas de connaissances à Singapour directement qui ont perdu leur job ou de choses comme ça un peu du jour au lendemain où je sais que c'est arrivé aux US. J'ai des connaissances là-bas qui ont perdu leur taf du jour au lendemain ou des patrons qui ont dit bon bah là tous ces employés on les arrête, pas de salaire et par contre vous retrouverez votre job une fois la crise terminée, mais pour le moment c'est niet. Je sais qu'à Singapour, je pense que ceux qui prennent le plus dur c'est les business, les petits business qui en soi gagnent de l'argent, mais qui n'ont pas beaucoup de cash pour couvrir cette période-là, comme les restaurateurs ou les choses comme ça. Je connais des restaurateurs français qui ont dit qu'ils ont réduit les salaires de 30 ou 40% sur leurs employés. Donc c'est des restaurateurs français qui engagent des locaux. Ils ont dit, bon, bah, vous pouvez garder votre job et votre activité, mais je peux pas garder votre salaire, donc je cut le salaire de 30%. Les restaurants sont toujours ouverts, mais ils peuvent faire que de la delivery. Tu peux aller au restaurant, prendre ton truc et partir avec. Même les restaurants haut de gamme, étoilés, ils font ça. C'est assez drôle. Pour revenir sur le sujet de base, ouais, Singapour injecte des milliards de Singapour dollars pour couvrir ça. Ils vont subventionner toutes les familles de 600 ou 1000 dollars, je sais plus, par personne. Donc ça compte pas pour les expats, c'est pour les citoyens. Et les PR, c'est les permanent residents. C'est des expats qui sont là depuis longtemps, qui ont fait la demande de rester, qui peuvent choisir entre le passeport singapourien ou garder leur ancien passeport. Voilà, c'est un autre statut. Donc ces PR et ces citoyens touchent 600 dollars, entre 600 et 1000 dollars par personne, pour aider les familles. Après, dans l'économie, c'est comme en Europe, ils ont injecté plein de milliards de dollars pour limiter la casse. Et puis, en fonction de la durée du virus, je pense qu'on verra. Mais clairement, le PIB, je crois qu'ils ont, pour l'instant, ouais, ça part dans le négatif pour cette année.
Singapour a-t-elle rencontré des problèmes d'importation de nourriture ou de pénurie dans les magasins suite à l'épidémie ?
Alors, au niveau des pénuries, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, comme j'avais énoncé l'autre fois, le DORSCON, qui est le niveau d'alerte de l'épidémie, qui était monté en orange il y a 4 semaines, 5 semaines, au début de l'épidémie à peu près. Les gens avaient été un petit peu foufou, ils avaient dévalisé tous les trucs de première nécessité dans les magasins. Et le gouvernement, le Premier ministre, donc là, quand le Premier ministre il parle, c'est super important, tout le monde se met devant sa télé, tout ça. Il avait dit, ah non, vous inquiétez pas de panique, on est loin d'être en pénurie, on va régler ça et tout ça. Ça avait pas mal calmé les gens, on avait retrouvé des choses dans les magasins. Mais depuis, honnêtement, je n'ai pas vu de grandes rafles dans les magasins avec des grands rayons vides et tout ça. Il y a eu une petite vague à un moment là quand ils ont annoncé les 1 mois de circuit breaker, de confinement, comme on dirait en France. Le vendredi, le Premier ministre a parlé à 16h. Donc là, il a annoncé circuit breaker, les magasins qui ferment, tout ça, tout ça. J'ai une réunion avec mon chef le soir même, à 17h, donc une heure après. Donc lui, il était déjà au courant avant. Et il m'a dit, alors, ça sert à rien de paniquer, mais faites des stocks. Donc bon, j'allais faire mes courses ce soir quand même parce que j'avais besoin, pas pour faire des stocks. Et j'ai eu une petite queue dans le magasin, j'ai dû attendre 10 minutes pour rentrer parce qu'en fait, il faisait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de monde en même temps dans le magasin. Donc j'ai mis un peu de temps à rentrer avec quelques rayons qui étaient vides, genre le pain de mie, les trucs comme ça. D'une façon plus générale, pas de problème pour aller dans les magasins et acheter ce qu'on veut.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et peut-être à une prochaine pour une nouvelle interview, voir l'évolution de la situation d'ici là.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. Après s'être promené sur le globe pour aller aux nouvelles du côté des Singapour, je vous propose de revenir en France en musique avec la chanson « Du sang sur les congas » de la parisienne Cléa Vincent. Congas.
Sur les congas, on veut du monde sur la piste, on veut les flics à la sortie et libérer la bonne énergie. Nous retrouvons la vague de douceur, écrivons le avec le cœur. Sur les congas, on veut du monde sur la piste, on veut les flics à la sortie et libérer la bonne énergie, on veut du feu sur le secteur, chercher le soleil intérieur, on veut repartir de plus belle avec du rhum dans nos cocktails de maracas.
êtes toujours au cœur de notre Covidienne sur Radio Campus Angers. Pour la suite du programme, Iris nous a préparé une toute nouvelle chronique. Elle a pensé aux curieux adeptes de livres et musique qui s'ennuient déjà des plateformes de streaming et sont contre les bouquins numériques. Soyez attentifs, il paraîtrait que des commerçants réouvrent leurs portes pour animer vos oreilles et offrir le plaisir de toucher le papier à vos doigts. Je laisse Iris vous en parler. Bonsoir à toi.
Bonsoir Manon, bonsoir tout le monde. Et oui, depuis le confinement, grandes, moyennes, petites commerçants, un peu partout dans la France, hein, pour faire face à leur fermeture des magasins au public, ils sont donc vus obligés de s'adapter et de créer des nouvelles stratégies de vente et de livraison. Et oui, bah, Angers, qui n'est pas une exception, de la campagne au centre-ville, plusieurs enseignes vous proposent donc de continuer à vivre le plus normalement possible et bien accompagné. Du coup, si vous ne savez plus quoi regarder sur Netflix, si vous avez fait le tour de votre bibliothèque à la maison, si vos disques CD ont déjà tourné plusieurs fois, si vous avez envie de nouveautés, laissez-vous tenter. Et voici ma petite liste de survie pour décresser l'âme et le cerveau. Fermés tout au début du confinement, ils sont back in the game. Pour les amants de la lecture, Mariagen, une librairie indépendante, galerie, café située en plein centre-ville, continue de vous accueillir. Dans cette librairie, vous allez retrouver une sélection éclectique de bouquins aux petits soins, de la littérature aux beaux-arts, de la BD, jeunesse, des ouvrages connus, moins connus, des nouveautés, des classiques, de l'originalité. Mariagen a donc mis en place 2 permanences par semaine tous les mardis et samedis, de 16h à 18h. Par contre, n'oubliez pas de réserver à l'avance directement par email librairiemiriagen@gmail.com ou par messenger. Je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil à leur page Facebook où quotidiennement des nouvelles suggestions et conseils sont au rendez-vous. Pour les amants de la musique ou pour tous ceux qui veulent donner du rythme aux journées les plus monotones ou se mettre du neuf dans les oreilles, Home Wax Record Shop, un disquaire indépendant sur Angers. Vous trouverez des disques vinyles neufs et d'occasion, matériel et accessoires, de la musique indé au classique du rock ou à la soul, en passant par le metal et le blues. Ce magasin vous accueille à nouveau. Des permanences, elles sont aussi mises en place. Assurez tous les mardis de 14h à 18h pour la récupération de vos vinyles commandés à l'avance. Également par email ou par Facebook. Pour consulter le stock disponible, je vous conseille d'aller directement sur le site discogs.com, la grande base de données musicales internationale. Les moyens de paiement acceptés sont donc les chèques, espèces ou PayPal. Attention, pas de CB. La livraison par la poste reste disponible, mais les délais peuvent être plus longs que d'habitude. Et très honnêtement, pourquoi faire un bon moment de partage ? En parlant, le Discog Exit Music for Drink, un autre disquaire indépendant sur Angers, reste aussi à votre disposition pour continuer de nourrir vos oreilles. Le stock est également disponible sur Discog, lien que vous allez retrouver sur leur page Facebook et site, et pour réserver, comme d'hab, via Facebook ou par email. Les moyens de paiement acceptés sont donc les chèques au virement bancaire en amont. Par contre, pas de permanence. Une heure de rendez-vous vous sera proposée afin d'éviter des possibles ennuis à cause de cette nouvelle mode de la distanciation sociale. Quel manque de tact. Restons donc en contact et allez faire un tour sur leur page Facebook Exit Music for a Drink avec ses publications par-ci par-là, de la musique au cinéma, de la nouveauté et originalité ne manque pas. Chers auditeurs, plus d'excuses possibles, pourquoi ne pas continuer à se faire plaisir? Lisez, écoutez, répétez. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, une bonne fin d'émission. À très vite, des bisous partout.
Merci beaucoup à Iris pour cette chronique bon plan. J'espère que vous avez pris en note ces bonnes adresses. En attendant, vous êtes toujours dans notre format confiné, la Covidienne. Nous approchons de la fin de cette émission. Et avant de se quitter, je vous propose de partir pour un petit moment hors du temps avec le titre Ginkgo Biloba de Ron sur Radio Campus Angers. Thank you. est temps pour nous de clôturer cette émission. Comme toujours, vous pouvez retrouver le podcast sur notre site radiocampusangers.com dans la rubrique Covidienne. Je vous donne rendez-vous demain 18h pour une nouvelle émission. Soyez au rendez-vous et comme toujours, restez chez vous, prenez soin de vous et passez une bonne soirée sur le 103 FM.